Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 17. Mort de l'évêque. Quel épouvantable aspect avait pris la grande salle, depuis le dernier repas auquel Quentin avait assisté, vers le milieu du jour. Le sanglier des Ardennes était assis, au bout de la table, sur le trône de cérémonie, que l'on avait apporté précipitamment de la grande chambre du conseil. Il avait ôté son casque, mais en conservant le reste de sa lourde et brillante armure, que d'ailleurs il quittait rarement. La partie supérieure de la face de la marque, telle que la nature l'avait faite, démentait presque son caractère. Ses cheveux, il est vrai, ressemblaient aux soies rudes et hérissées du sanglier, mais son front haut, ouvert et viril, ses grosses joues rouges, ses grands yeux brillants, de couleur claire, et son nez en bec d'aigle, semblaient promettre quelque chose de vaillant et de généreux. Mais l'effet de cet ensemble de traits avait été détruit par ses habitudes d'insolence, de violence, de débauche et d'ivrognerie, qui avaient gonflé les muscles de ses joues et de ses paupières. L'éclat même de son regard en avait été amorti, et le blanc de l'œil était injecté de sang. En somme, il ressemblait au monstre dont on lui avait donné le nom. Mais par une bizarre contradiction, la marque, pendant qu'il affectait à d'autres égards l'apparence du sanglier, laissait croître sa barbe pour cacher le trait de sa physionomie qui lui avait d'abord valu ce surnom. Il avait la mâchoire supérieure massive et projetée en avant, avec la lèvre de dessus très épaisse, et ses dents énormes faisaient saillie en côté, comme des défenses de sanglier. Qu'on joigne à cela le plaisir qu'il avait à vivre dans les bois, et l'on comprendra que son surnom lui fut venu tout naturellement. Sa barbe épaisse, grisonnante et négligée, ne dissimulait pas l'ensemble horrible de sa physionomie et ne donnait aucune dignité à son expression brutale. Les soldats et les officiers étaient assis autour de la table, pêle-mêle avec les gens de Liège, dont plusieurs appartenaient à la classe la plus abjecte. Parmi ces derniers, on remarquait Nickel Bloch, le boucher, placé près de Guillaume de la Marque. Ses manches retroussées laissaient voir des bras nus, souillés de sang jusqu'aux coudes, comme le fendoir de boucher qu'il avait devant lui, sur la table. Les soldats, pour la plupart, portaient de longues barbes grises, à l'exemple de leur chef. Presque tous ivres, ils présentaient un spectacle hideux et dégoûtant. Le langage qu'ils tenaient, les chansons qu'ils chantaient, chacun pour son propre plaisir et sans avoir la prétention d'être écouté par ses camarades, tout cela était un mélange affreux d'ordure et de blasphème. Aussi Quentin rendit grâce à Dieu de ce que le vacarme de l'ensemble empêchait la jeune comtesse de distinguer les détails. Les quelques bourgeois honnêtes, égarés en telle compagnie, avaient une figure pâle et un air inquiet. Évidemment, le festin n'était pas de leur goût, et ils avaient peur de leurs compagnons. La canaille, au contraire, admirait le débraillé de la soldatesque et faisait tous ses efforts pour l'imiter. Toute l'argenterie de l'évêque était sur la table, avec les vases sacrés, car le sanglier ne s'inquiétait guère d'être accusé de sacrilège. Tout cela pêle-mêle avec des pots de terre, des tasses de cuir et des vidres comme de l'apparence la plus vulgaire. Au milieu du désordre et de la confusion, un lansquenet ne put trouver de place à table. C'était un soldat remarquable par son courage et qui s'était distingué à l'assaut du château. Il prit impudemment sur la table un grand gobelet d'argent et l'emporta, en disant que c'était pour se consoler de n'avoir point de part au festin. Le sanglier rit, à s'en tenir les côtes, de cette plaisanterie si digne de la présente compagnie. Un autre voulut en faire autant, mais mal lui en prit, car il n'était qu'un petit compagnon au prix du premier. « Oh ! Par l'esprit du tonnerre !» s'écria Guillaume de la Marque. « Ceux qui n'osent pas être des hommes en face de leurs ennemis n'ont pas le droit d'être des voleurs en face de leurs amis. Et quoi ? Effronté poltron, toi, toi qui as attendu pour entrer ici que la porte fût ouverte et le pont-levis baissé, quand Conrad Horst franchissait le fossé et la muraille. Oses-tu te montrer si mal appris ? Accrochez-le-moi au barreau de la fenêtre. Il battra la mesure avec ses pieds, pendant que nous boirons à son heureux voyage chez le diable. à peine prononcée la sentence fut mise à exécution. Un moment après, le misérable était suspendu au barreau de fer. Il y était encore lorsque Quentin et les autres entrèrent dans la salle. Quand le nom du syndic Pavillon passa de bouche en bouche au milieu du tumulte, le syndic essaya de prendre, de par le droit de son autorité et de son crédit, l'air d'importance d'un homme qui se sent l'égal des princes. Mais il eut peine à maintenir sa dignité quand il eut jeté un regard sur l'objet horrible suspendu au barreau et sur la scène qu'il avait sous les yeux. Peter, assez troublé lui-même, avait beau lui souffler à l'oreille « Du cœur, maître, ou nous sommes perdus !» Le syndic fit de son mieux et complimenta en peu de mots la compagnie sur la grande victoire remportée par les soldats de la marque et les braves habitants de Liège. « Oui, répondit ironiquement la marque, nous avons mis la bête aux abois, comme disait le petit braque de madame au gros chien loup. Mais, holà, messire bourgmestre, vous arrivez comme Mars, menant la beauté avec vous. Quelle est cette belle fille? Ôtez-lui son voile. Nulle femme n'a le droit de cacher sa beauté cette nuit. C'est ma fille, noble capitaine, répondit Pavillon, et j'ai à l'excuser auprès de vous de porter un voile. C'est un vœu qu'elle a fait aux trois bienheureux rois. Je l'en vais relever présentement, dit la marque, car à l'instant d'un coup de ce fendoir, je vais me consacrer évêque de Liège, et je suppose qu'un évêque vivant vaut bien trois rois morts. Il y eut un frisson et un murmure parmi les convives, car les gens de Liège, et même quelques-uns des grossiers soldats du sanglier, s'ils ne respectaient rien au monde, respectaient du moins les rois de Cologne, comme on les appelait. Non, je ne médite aucune trahison contre leur majesté défunte, reprit la marque. Je suis simplement décidé à être évêque, un prince à la fois séculier et ecclésiastique, avec le pouvoir de lier et de délier, sera tout à l'affaire d'une bande de réprouvés comme vous, à qui personne autre ne voudra donner l'absolution. Mais venez ici, noble bourgmestre, asseyez-vous à côté de moi. Vous voyez comment on s'y prend pour faire une vacance, quand on veut avoir de l'avancement. Qu'on introduise l'évêque, notre prédécesseur. Il y eut un mouvement dans la salle. Quant à Pavillon, déclinant l'honneur de s'asseoir à côté de Guillaume de la Marque, il se tint au bas bout de la table, ayant derrière lui les gens de sa suite. Tout près de là était assis un jeune garçon de bonne mine, favori de Guillaume de la Marque. C'était peut-être même le seul être humain pour qui le sanglier des Ardennes éprouva quelque affection. Quentin, qui avait appris cette particularité dans sa conversation avec le chapelain, se plaça tout près de ce jeune homme, bien décidé à faire de lui, selon l'occurrence, ou un protecteur, ou un otage. En ce moment, l'évêque de Liège, Louis de Bourbon, fut traîné dans la galerie de son propre palais par une soldatesque brutale. Au désordre de ses cheveux, de sa barbe et de ses vêtements, on voyait qu'il avait déjà été fort maltraité. On avait jeté sur lui à la hâte quelques-uns de ses ornements pontificaux pour tourner en dérision sa qualité et son caractère. Par un heureux hasard, la comtesse Isabelle, qui aurait pu se trahir en voyant son protecteur dans une pareille situation, était placée de façon à ne rien voir et à ne rien entendre de ce qui se passait. La scène qui suivit fut courte et terrible. Une fois en présence de son ennemi, l'évêque, qui jusque-là n'avait été connu que par sa douceur et sa bonté, montra dans ce moment redoutable une fermeté et une noblesse dignes de l'illustre maison à laquelle il appartenait. Il avait un air calme et intrépide, et quand les soldats l'eurent lâché, son attitude était ferme, noble et résignée. La marque lui-même, frappé de la fermeté de son prisonnier et du souvenir des bienfaits qu'il en avait reçus autrefois, sembla hésiter et baissa les yeux. Ce ne fut qu'après avoir bu un grand gobelet de vin qu'il retrouva son ton habituel d'insolence hautaine. « Louis de Bourbon, dit-il, j'ai recherché votre amitié, vous avez rejeté la mienne. Que ne donneriez-vous pas maintenant pour qu'il en eût été autrement? Nickel, tiens-toi prêt. » Le boucher se leva, saisit son arme et, passant derrière le trône de la marque, se tint debout, tout prêt. Regarde cet homme, Louis de Bourbon, reprit la marque. Quelle proposition me fais-tu pour échapper à la mort? L'évêque jeta un regard triste mais ferme sur l'homme qui se préparait à exécuter la volonté du tyran, et répondit sans trembler. Écoute-moi, Guillaume de Lamarque, et vous, braves gens, s'il y a ici des âmes dignes de ce nom, écoutez les seules propositions que je puisse faire à ce ribaud. Guillaume de Lamarque, tu as poussé à la sédition une cité impériale. Tu as pris d'assaut le palais d'un prince du Saint-Empire germanique. Tu as tué ses gens, pillé ses biens et maltraité sa personne. Pour tout cela, tu as mérité d'être mis au ban de l'Empire. Tu as mérité d'être mis hors la loi, d'être déclaré banni, sans terre et sans droit. Tu as fait plus que tout cela. Ce ne sont pas seulement les lois humaines que tu as enfreintes, et tu as mérité plus qu'un châtiment humain. Tu as pénétré par la force dans le sanctuaire du Seigneur. Tu as porté des mains violentes sur un père de l'Église. Tu as souillé la maison de Dieu de sang et de rapine, comme un voleur sacrilège. As-tu fini? Demanda Lamarque, qui l'interrompit avec violence en frappant du pied. Non, répondit le prélat, car je ne t'ai pas dit quelle proposition j'ai à te faire, selon que tu me l'as demandé. Continue, dit Lamarque, et fais en sorte que tes conditions me plaisent mieux que ta préface, sinon gare à ta tête grise. Et il se rejeta contre le dossier de son fauteuil en grinçant des dents. Tels sont tes crimes, reprit l'évêque avec une calme détermination. Maintenant écoute les conditions que, en ma qualité de prince miséricordieux et de prélat chrétien, mettant de côté toute offense personnelle, oubliant toute injure particulière, je condescends à t'offrir. Jette ton bâton de commandement, délie tes prisonniers, restitue ce que tu as volé. Distribue le reste de tes biens à celles que tu as rendues veuves et à ceux que tu as fait orphelins. Revêt-toi d'un cilice et, le bâton à la main, va-t'en en pèlerinage à Rome. Et nous-mêmes, nous faisant ton intercesseur, nous demanderons à la chambre de Ratisbonne d'épargner ta vie et à notre Saint-Père le Pape d'avoir pitié de ton âme misérable. Pendant que Louis de Bourbon proposait ses conditions, comme s'il occupait encore le trône épiscopal, et que l'usurpateur fût agenouillé, suppléant à ses pieds, le tyran se redressa lentement dans son fauteuil. La rage succédait peu à peu en lui à la surprise du premier moment, et quand l'évêque cessa de parler, il regarda Nickelbloch et leva le doigt sans rien dire. Le misérable frappa comme à l'abattoir, et l'évêque assassiné tomba, sans pousser un seul gémissement, au pied de son propre trône. Les Liégeois qui ne s'attendaient pas à une pareille catastrophe et qui avaient compté sur un arrangement se levèrent tous à la fois en poussant des cris d'horreur et des menaces de vengeance. La voix de tonnerre de Guillaume de Lamarque domina tous les bruits quand il cria, en montrant le poing d'un air de menace, « Eh bien, porc de Liège, qui vous vautrez dans la boue de la Meuse, osez-vous vous mesurer avec le sanglier des Ardennes? Debout, mes marcassins! Faites voir vos défenses à ces cochons de Flandre. » Tous ces soldats se levèrent au commandement, et mêlés à leurs alliés de tout à l'heure, qui ne comptaient pas sur une pareille surprise, chacun saisit son voisin au collet et leva sur lui son poignard à large lame. Cependant, les bras restaient levés sans frapper, car les victimes étaient trop surprises pour opposer aucune résistance, et probablement Lamarque n'avait pas d'autre intention que de faire peur à ses bourgeois. Mais le courage de Quentin d'Hurouard opéra un changement de scène. Imitant les soldats du sanglier, il sauta sur Karl Eberson, le favori du capitaine, le maîtrisa sans peine et lui mit sur la gorge la pointe de son dirk. « C'est là votre jeu, dit-il. Eh bien, j'en suis. « Arrêtez, arrêtez !» s'écria Lamarque. « C'est une plaisanterie. Me croyez-vous capable de faire injure à mes bons amis et alliés de la ville de Liège? Soldats, lâchez prise, asseyez-vous, qu'on emporte cette charogne, ajouta-t-il en allongeant un coup de pied au cadavre de l'évêque. C'est la cause de cette altercation entre amis, noyons tout ressentiment dans le vin. Tous lâchèrent prise, et soldats et bourgeois restèrent là à s'entre-regarder, ne sachant trop s'ils étaient amis ou ennemis. Quentin profita de l'avantage du moment. Écoutez-moi, dit-il, Guillaume de la Marck, et vous, bourgeois et citoyens de Liège, et vous, mon jeune sire, ne bougez pas. Car le jeune Karl essayait de se débarrasser de son étreinte. Vous n'avez rien à craindre, à moins que la plaisanterie de tout à l'heure ne recommence. Qui es-tu par le diable? Demanda la Marck au comble de la surprise. Toi qui viens dicter des conditions et prendre des otages dans notre propre bauge, notre bauge à nous, qui imposons nos conditions aux autres et n'en acceptons de personne. Je suis serviteur du roi de France, répondit hardiment Quentin. Je suis archer de la garde écossaise. Je suis ici pour surveiller vos faits et gestes et en rendre compte à mon maître. Et je vois avec peine que vous vous conduisez comme des païens, et non comme des chrétiens, comme des fous, et non comme des créatures douées de raison. Les troupes de Charles de Bourgogne vont fondre immédiatement sur vos têtes, et si vous voulez que le roi de France vous assiste, vous devez vous conduire autrement. Vous, homme de Liège, je vous avise de retourner chez vous à l'instant, et si quelqu'un s'oppose à votre départ, je déclare ce quelqu'un-là ennemi de mon maître, sa très gracieuse majesté le roi de France. France et Liège, France et Liège, crièrent les compagnons de pavillon et plusieurs autres bourgeois dont les paroles hardies de Quentin avaient relevé le courage. France et Liège, et vive le vaillant archer, nous vivrons et nous mourrons avec lui. Les yeux du sanglier lancèrent des éclairs, et il se saisit violemment de son poignard, comme pour le lancer au cœur de celui qui venait de parler si hardiment. Mais ayant jeté un regard autour de lui, il vit sur la figure de ces hommes quelque chose que, même lui, il fut forcé de respecter. Beaucoup étaient français, et tous savaient qu'ils venaient sous main, du royaume de France, des subsides en hommes et en argent. Et puis quelques-uns étaient réellement épouvantés du crime sacrilège qui venait d'être commis. Le nom du duc de Bourgogne avait de quoi les effrayer, car il n'était pas homme à laisser sans punition les actes de cette nuit. Quoiqu'ils ne fussent pas grand clair, ils comprenaient combien il serait impolitique de se brouiller, dans un pareil moment, avec les Liégeois et avec la France. Bref, la Marque sentait que même ceux de sa bande refuseraient de le soutenir s'il leur commandait un nouvel acte de violence. Il déclara donc qu'il n'avait pas l'ombre de mauvais vouloir entre ses bons amis de Liège et que tous pouvaient quitter Schoenwald quand bon leur semblerait. Il espérait néanmoins qu'ils voudraient bien y passer au moins le reste de la nuit pour se réjouir avec lui de leur commune victoire. Il comptait bien que le gentilhomme écossais honorerait la fête de sa présence. Le gentilhomme écossais remercia, mais il déclara en même temps que ses mouvements dépendaient de ceux de Pavillon, à qui ses instructions lui enjoignaient de s'attacher tout particulièrement. Il ne manquerait pas du reste de se prévaloir de l'invitation, aussitôt qu'il reviendrait au quartier général du vaillant Guillaume de la Marck. « Si vos mouvements dépendent du mien, dit Pavillon, il est probable que vous sortirez de Schoenwald à l'instant même. Et si c'est en ma compagnie que vous comptez y revenir, ce ne sera pas de sitôt. Tenez-vous près de moi, dit-il à ses gens. Et il ajouta tout bas, et sortons au plus vite de cette caverne de voleurs. » Les autres bourgeois de la classe aisée suivirent son exemple. Ils étaient plus pressés de sortir de Schoenwald qu'ils ne l'avaient été d'y entrer. On les laissa tous partir sans difficulté, et Quentin, pour sa part, poussa un soupir de satisfaction en voyant derrière lui les hautes murailles de la forteresse. Pour la première fois depuis le moment où ils étaient entrés dans la galerie, théâtre de tant d'horreurs, Quentin osa demander à la jeune comtesse comment elle se trouvait. « Bien, bien !» répondit-elle avec une précipitation fiévreuse. « Parfaitement bien. Ne vous arrêtez pas pour m'adresser des questions. Ne perdons pas notre temps en paroles. Fuyons, fuyons. » Elle essaya de hâter le pas, mais elle serait tombée d'épuisement si Quentin ne l'avait pas soutenue. L'honnête syndic, de son côté, ne marchait plus que tiré et poussé par son lieutenant Peter et par un de ses commis. C'est ainsi qu'ils arrivèrent au bord de la Meuse. Ils purent heureusement se procurer une barque. Quand ils abordèrent au bout du jardin de pavillon, le syndic appela Trutchen, qui ne tarda pas à paraître, car elle était aux aguets, inquiète comme tout le reste de la population féminine. Elle reçut l'ordre de consacrer tous ses soins à la jolie étrangère, qui était à demi évanouie. Touchée de sa beauté et pleine de pitié pour sa détresse, Gertrude s'acquitta des devoirs de l'hospitalité avec le zèle et l'affection d'une sœur. Quentin fut logé pour la nuit dans une jolie chambre, aussi propre et aussi commode que peut l'être une chambre flamande, et ce n'est pas peu dire.